والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شيخ خير الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous asseoir quelques instants pour essayer d'étudier les noms d'Allah Azza wa Jal, les qualités d'Allah Azza wa Jal. L'objectif principal pour le croyant est de mieux connaître Allah Azza wa Jal, de mieux connaître son Seigneur pour mieux l'adorer, mieux connaître son Seigneur pour mieux comprendre comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal agit avec nous, mieux connaître Allah Rabbul Izzah pour faire son adoration comme Allah le mérite. Mieux connaître son Seigneur pour ne plus jamais le désobéir parce qu'on aura pris conscience de la grandeur, de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Mieux connaître notre Seigneur pour qu'on puisse donner un sens à notre vie et réaliser que tout ce qui se passe de ce dunya découle de la volonté d'Allah Azza wa Jal et que pour certaines choses, Allah nous donne la possibilité de faire des choix. Allah Rabbul Izzah nous éprouve afin de voir quel chemin nous empruntons. Et en connaissant les qualités d'Allah, Rabbul Izzah, notre iman, d'une façon générale, sur les branches de la foi, va devenir plus clair. Et il n'y aura plus aucun doute dans la compréhension de la religion, principalement les points parfois un peu complexes comme le destin, où on trouve clairement la réponse dans l'étude du Sifat al-Latif qu'on a commencé depuis quelques mardis en étudiant cette qualité d'Allah Azza wa Jal, le nom d'Allah Al-Latif, Allah qui est le subtil, plein d'affection, ça nous permet de comprendre très clairement le destin, le taqdir. Donc l'étude des noms d'Allah Rabbul Izzah va renforcer notre dhan billah, notre connaissance à propos d'Allah, notre conception concernant notre Seigneur, mais cela va nous permettre également d'améliorer la qualité, le sifat, la qualité des ibadah, et cela nous permettra de mieux comprendre, comme on l'a dit, d'une façon générale, la religion. Récemment, il y avait un WhatsApp qui circulait, donc ça venait de quelques ulama du monde arabe, et c'était des paroles extrêmement riches, extrêmement intéressantes. C'était pas un WhatsApp, enfin, c'était pas des écrits, c'était une vidéo plutôt, où ce cher expliquait qu'il y a des personnes, parenthèse, il y a des personnes qui, mashallah, multiplient l'accomplissement des bonnes actions. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup de bonnes œuvres, prière de la nuit, le zikrullah, la lecture du Coran, le tahajjud, le shuruq, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils ont complété une action, ils passent directement à la prochaine action. Et il y a comme un enchaînement. C'est une bonne chose. Le fait de cumuler les bonnes œuvres, a'mal ou saliha, c'est une bonne chose. Mais ce cheikh explique, et là c'est un peu plus technique, c'est très complexe à comprendre, mais là, ça rejoint vraiment, subhanallah, ça rejoint vraiment certains points qu'on essaie parfois avec difficulté, avec nos moyens limités de mettre en avant. Il dit que le plus important, ce n'est pas la quantité de bonnes actions qu'on va accomplir. La qualité, bien sûr, mais ça, c'est le discours qu'on entend régulièrement, c'est la qualité, la sincérité, s'appliquer, ainsi de suite, sans le moindre doute. Mais ce cheikh, il passe à un autre niveau. Il dit que ce qui est le plus important, c'est que à partir de cette bonne action qu'on a accomplie, notre connaissance, notre conception de notre relation avec Allah Azza wa Jal s'améliore. C'est-à-dire qu'après avoir accompli tes deux rakats de shuruq, ishraq par exemple le matin, ton relationnel avec Allah Azza wa Jal, il augmente en qualité, de telle sorte que lorsque tu es exposé à la vie de tous les jours, cette relation que tu as eue avec Allah Azza wa Jal, c'est une relation qui te permet de faire les bons choix. Il dit que ça, c'est le plus important. Il dit de cette façon, celui qui fait, peut-être, j'allais dire juste, celui qui fait son salat al-isha en jamaat et qui fait son fajr en jamaat, peut-être que cette personne qui le fait avec une telle dévotion, une telle concentration, avec une telle prise de conscience du gestuel et des paroles et de l'importance de cet état de ubudiyya, de cet état d'adoration, je suis en train de produire du ibadah. Je suis en train d'adorer Allah. Ça, c'est très important, prendre conscience que quand je fais le ruku', Je suis en train d'adorer Allah. Quand je me prosterne, je suis en train d'adorer Allah. Je suis en train de me rapprocher d'Allah. Il n'y a pas une situation où le serviteur est plus proche d'Allah que quand il est en état de prosternation. À la différence de celui qui va en faire beaucoup de sujoud dans la prière de la nuit, 12 rakat, et puis il vient à la masjid pour la salat al-fajr, il est au premier rang, ainsi de suite. Lui, il le fait, mais peut-être qu'il le fait sans vraiment réfléchir sur le sens de ses positions. C'est-à-dire qu'alors que celui qui réfléchit, qui médite et qui réalise ce qu'il est en train de produire, le ibadah qu'il est en train d'accomplir, ben cette prise de conscience-là, ça produit du iman, ça produit de la taqwa, ça crée du ihsan. Et comment est-ce qu'on voit que la personne se rapproche d'Allah et que cette action l'a rapproché d'Allah, l'a augmenté son capital taqwa, a augmenté son degré, l'a rapproché d'Allah, c'est dans la vie de tous les jours où cette action lui permet d'avancer, de faire les bons choix et de surtout de rester éloigné du péché. C'est une épreuve, hein, une façon de voir est-ce que nos bonnes œuvres sont productives ou non, c'est de nous mettre dans la situation de fitna, de péché, et de voir notre réaction. Si dans la situation de vie, on va dire entre guillemets normale, de péché ou de fitna, qui correspond à notre société, d'accord, on est capable vraiment de se contrôler, ça veut dire que chaque action que tu accomplis, c'est une action qui a été productive, ça t'a apporté. Et ça rejoint ce que ce cheikh dit, ça rejoint le verset « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». Une sagesse insoupçonnée de la prière. Si on demande à un enfant qui étudie les maslas, la jurisprudence, classe 3, classe 4, classe 9, on sort d'une réunion de Maghrib Isha uniquement sur le programme scolaire, le programme de la madrasa. Ben, on va vraiment vers les points enseignés. Qu'est-ce qui est adapté? C'est très bien. On demande à un enfant, parle-nous de la salah. Il dit la salah, si vraiment c'est un enfant marchand intelligent qui a tout compris, à la fin du cursus, on va dire en classe 9 ou en classe 10, il doit être capable de te dire l'origine de la salah, quand est-ce que ça a été prescrit, de quelle façon, pourquoi est-ce que ça se différencie de la prescription du jeûne, de la zakat et du hajj, d'accord? Il doit être capable de te dire combien de prières à la base, il doit être capable de te parler de la salle en congrégation, de l'importance de la masjid, de chaque position, de ce qu'il faut faire, des règles, de ce qui est mustahab, de ce qui est déconseillé, et ainsi de suite. La jurisprudence. Et des récompenses, s'il est un peu plus affûté, les fadra'il, ce que la salat apporte. C'est très bien. Mais ce qui est insoupçonné, c'est ce verset, inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar, que la prière éloigne du turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que la prière, c'est un ensemble de gestuels et de azkar. Gestuels associés à des word, à des durud, à des lectures. D'accord? Et les lectures ont leur place dans des positions précises. On ne peut pas inverser. On ne peut pas lire tahiyat en qaïda, debout en qiyam, et vice versa, lire alhamdou fatiha en position de qaïda. Ça, c'est pas possible. Donc, chaque qira'a, chaque lecture a sa place dans une position. Ça, c'est la forme de la salah. Maintenant, cette salah avec ce gestuel combiné à cette lecture et avec la dévotion, la concentration, la prise de conscience qu'on se trouve devant Allah Azza wa Jal, ça doit produire une piété, ça doit t'élever spirituellement de telle façon qu'à l'extérieur, tanha anil fahsha'i wal munkar. Quand je vais au travail, quand je suis avec mes collègues du bureau, quand je suis dans le métro, dans le bus, quand je suis dans la vie, la vraie vie, ben cette prière-là, elle reste en moi. Elle anime mon corps, elle contrôle mon corps. Le contrôle des pensées, du regard, de ce qu'on écoute, et ainsi de suite, tout ce qu'on a déjà maintes et maintes fois expliqué dans la prière, on arrive à le reproduire. Mais là, ce cheikh, il a vraiment mis le doigt sur les maqasid, l'objectif des a'mal salihah. On a grandement besoin de développer ça, qu'Allah nous accepte. Et en étudiant ces qualités d'Allah Rabbul Izza, je pense qu'on peut voir un peu plus clair sur les objectifs de la religion. Et par rapport à ce qu'on vient de citer en exemple sur l'action, la bonne action qu'on accomplit et l'importance de rester éloigné des péchés, il y a le doua qu'on avait cité un peu hier dans Riyad al-Salihin, que le prophète alayhi salatu wa salam avait l'habitude de demander Allahumma inna nas'aluka complète al-huda wa al-tuqa wal-afafa wal-ghina. Il demandait à Allah Rabbul Izzah al-huda, la guider. Et la guider, c'est al-ilm wa at-tawfiq lil-haqq, la connaissance. Sans connaissance, on est perdu.
Celui qui pense qu'il peut se rapprocher d'Allah uniquement en se prosternant, il le fera, mais ce sera extrêmement limité. Prosterne-toi avec le ilm, c'est another level. Qu'Allah nous accepte pour ça. Et at-tawfiq lil-haq, celui qui pense qu'il se rapprochera d'Allah uniquement avec le ilm, mais qu'il ne met pas en pratique, il se met le doigt, les bras et tout ce qu'il veut dans l'œil. Et tout ce ilm se retournera contre lui. Parce que le Coran, par exemple, hujjatun laka aw alayk. Le Coran, on est hafdh le Coran, on est fier, on remporte des concours, on a des titres. Mais le Coran, soit il est pour toi, soit il est contre toi. D'accord? Donc, al-ilm, wa tawfiq lil-haq. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa. La piété. Pas besoin d'expliquer la piété, que l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement du haram. Et préciser avec ça, wal-afaf. L'éloignement du péché. Comment dire, les muhaddithin disent, pourquoi préciser l'afaf alors qu'il fait partie de la piété? C'est que, par exemple, précise que l'éloignement du péché, c'est essentiel. Tu ne te rapprocheras jamais d'Allah tant que tu ne t'éloignes pas des péchés. Et parmi les principes de la religion, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ordonner le bien et interdire le mal. Les deux doivent marcher ensemble. Et dans notre vie, dans notre tazkiya, dans notre propre correction, on s'efforce de faire la prière de la nuit et les a'mal qui nous rapprochent d'Allah, mais on s'efforce également dans notre jadwal, dans notre planning spirituel, de lister nos péchés et de les effacer les uns après les autres. Autrement, on n'avance pas. Autrement, on n'avance pas. Il y avait également un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam rappelait qu'il est essentiel pour le croyant de développer une relation secrète avec Allah. C'est très beau ça. Le terme, je crois, al-khab'a, je dois revoir le texte, une relation secrète avec Allah, avec une action remplie de sincérité qui n'est connue de personne. Ça peut être une sadaqa, une aumône, que personne n'est au courant. Et de jouer avec les, pour une fois, les réseaux sociaux et Internet, ça apporte quelque chose de bien. Tu peux faire une aumône, vraiment, comme on dit, que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Ça va au-delà du virement pour la mosquée, au-delà du chèque que tu déposes, au-delà de l'argent que tu donnes à quelqu'un qui connaît au moins qui est le donateur. Tu fais un transfert, un virement pour des personnes de la nécessité, pour un projet de construction d'un puits ou d'une mosquée, ainsi de suite. Un virement qui est totalement anonyme, bien sûr, avec des, on a affaire à des gens sérieux, d'accord? Et, mashallah, ça peut faire partie des secrets. Peut faire partie des secrets la prière de la nuit. D'où le hadith qui stipule que parmi les gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, Rabbul Izzah, le jour de Qiyama, رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Un homme qui pense à Allah, خَالِيًا, seul. Et en commentaire, certains muhadithins disent, seul, dans l'obscurité de la nuit, où personne ne te voit. Personne ne sait qu'à cette heure-ci, tu es devant ton Seigneur, en prosternation, en génuflexion. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تقوم. Allah, il te voit quand tu es debout. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Et qui voit, en ce sens, hein, comment est-ce que tu bouges, tu alternes les positions entre l'assise et la prosternation. Parce qu'Allah, إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah est celui qui entend tout, qui connaît tout. Avec cette conviction, c'est la prise de conscience. Tu fais ta prière de la nuit et tu sais que ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas quelque chose que tu le fais parce qu'il faut faire, ou parce que c'est bien, ou parce que c'est une bonne action. Va au-delà de ça. Fais de l'ostentation. Fais de l'ostentation pour ton Seigneur. Montre à Allah ta bonté. Montre à Allah que tu es prêt. Je me suis parfumé, j'ai mis mes beaux vêtements, j'ai envie de... Fais l'intéressant devant ton Seigneur. Devant lui, tu peux. Devant lui, tu peux montrer ta fidélité, ton engagement. Devant les gens, abadan. Mais devant ton Seigneur, oui. Et c'est là que tu atteins le degré d'ihsan. Que tu adores Allah comme si tu le vois. Comment est-ce que le serviteur il peut avoir l'impression de voir Allah? Ben, en réunissant tous les paramètres pour donner le meilleur de lui-même, pour montrer à Allah toute sa bonté, sa spiritualité et sa soumission à lui. Et je reste intimement persuadé que l'étude des noms d'Allah nous donne un éclairage sur ces points de la foi. Et nous permettra de sortir, enfin pas de sortir, il ne faut pas sortir, mais de passer un cap, de progresser, de passer de l'étape de spirituel, de l'étape de l'adoration, du rituel, à l'étape de spiritualité et de compréhension du sens du rituel. Ça, c'est essentiel. Et ça nous permet également de ne pas sombrer dans les discours philosophiques islamologues. On a tellement l'habitude de dire islamophobe que l'islamologue, ça a du mal à sortir. Les discours de grands rêveurs, de grands philosophes musulmans, de grands philosophes, où on parle que de l'amour, que des qualités intérieures. Non, tout ça c'est bien, mais cela doit être combiné avec les a'mal saliha. Cela doit être combiné avec la pratique de la sunna. Cela doit être combiné avec l'éloignement du haram, avec l'éloignement de ce qui est makruh. N'entame pas un péché en te disant que, oui, mais ce péché te permet d'accomplir une bonne action. Ça, ça marche pas, ça. D'accord ? Pour avoir vraiment le juste milieu, la clairvoyance, al-basira, je suis persuadé que l'étude des noms d'Allah, Rabbul Izzah, ça nous apportera, inshallah, beaucoup d'éclaircissements et d'éclairages qu'Allah nous accepte pour cette noble mission. Allahumma amin. Al-Latif, on a vu qu'en étudiant cette qualité, on réalise qu'Allah connaît tout. Un. On réalise qu'Allah, Rabbul Izzah, décrète tout. Qu'il est ala kulli shay'in qadir. Il n'y a pas une chose qui se passe dans ton existence qui ne provient pas, qui n'émane pas de la décision d'Allah. Et de cette façon, tu acceptes la décision d'Allah. Parce que, en troisième point qui te permet de comprendre cette qualité de Latif, Al-Latif, c'est que dans son décret, Allah est hakim, Allah est sage. Et que lorsqu'Allah, Rabbul Izzah, te prédestine un événement, c'est qu'il y a un khair, un bien pour toi. Et ça, ça nous permet de comprendre d'une façon générale la qualité qu'Allah est bienveillant, subtil, plein d'affection envers ses serviteurs. On avait vu ça à travers le premier point, la distribution du rizq. On avait vu ça à travers les épreuves, qu'Allah envoie des épreuves et qu'Allah attend de toi un retour vers lui par le biais de ses difficultés, de ses épreuves. On avait vu également qu'Allah te donne la possibilité de développer cette qualité magnifique qui est la patience et ça, ça te propulse à des hauts degrés spirituels. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer d'avancer, peut-être de compléter avec Al-Latif. Les savants disent que وَمِنْ لُطْفِهِ أَنْ يُقَدِّرَ تَعَالَى لِعَبْدِهِ وَيَبْتَلِيَهُ ça c'était le 15 novembre, excusez-moi. On est le... On a juste loupé une page. Bismillah, on le retrouve. Parmi la manifestation de la clémence d'Allah Azza wa Jal, c'est que des fois Allah Rabbul Izzah crée une situation d'épreuve face au péché. Allah t'expose à une fitna et Allah Rabbul Izzah dans son ilm, c'est très subtil. Ce qu'on va expliquer, c'est apprendre avec des pincettes et ne pas chercher à reproduire des schémas. On explique des situations. Après coup, analyse et réalise. Mais n'essaie pas d'anticiper, autrement on se ramasse. D'accord ? Allah Azza wa Jal parfois t'expose à des situations extrêmes où tu auras à faire un choix entre ce que ton nafs te demande et ce que ton iman te propose, la réaction de foi. Et dans sa sagesse, de son ilm, de sa connaissance, Allah Azza wa Jal sait pertinemment que ce serviteur ne va pas sombrer dans le péché. Allah ne te fait pas tomber dans le péché. Allah t'a éprouvé jusqu'à la limite. Mais Allah, il sait déjà que tu ne vas pas aller dans le péché. Mais le fait que tu sois éprouvé jusqu'au bout et que tu restes ferme, tu te contrôles. Tu contrôles son regard, tu contrôles cette parole, tu contrôles ce cœur qui a envie de déborder de pulsions de shahawat et qu'à la fin, tu l'as fait, tu as résisté au péché. Allah t'accorde des récompenses exceptionnelles. Allah crée cette situation. Et Allah savait, et c'est au cas par cas. Allah n'expose pas tout croyant à ce genre de situation. Ça peut arriver à certaines personnes et certaines personnes ne seront peut-être jamais exposées à ce cas de figure. On va dire que ça, c'est au cas par cas. Exemple, Yusuf alayhi salam. Avec Imratul Aziz, Allah Azza wa Jal savait que Yusuf n'allait jamais succomber aux avances de Imratul Aziz, de cette dame. Mais il a été éprouvé jusqu'au bout. Et sa réaction de foi, son retour vers Allah, lui a donné un rang exceptionnel. Et voyez, on retourne vers les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Allahumma ja'alna minhum, qulu amin, dites amin. Rajulun, da'athu mra'atun, dhatu mansabin wa jamal, un homme qui reçoit les avances d'une femme d'une grande beauté et qui refuse, pas parce que on a d'une grande beauté et une femme respectée de la société. C'est pas une traînée. Ce n'est pas une prostituée, excusez-moi. Ce n'est pas une femme pauvre qui a besoin d'argent. C'est une femme qui est jeune, de grande famille, convoitée, on pourrait dire, qui a la cote, on pourrait dire. Son argus est assez intéressant. Et, pardon, et que cette femme est d'une grande beauté. Et que malgré ça, tu refuses par amour et par crainte d'Allah. Pas par rapport au regard des gens, pas parce que ta femme, elle est là, pas parce que le fundi, le molissab ou la société, la prawala et ainsi de suite sont autour de toi, ils butinent et surveillent parce qu'il y a des caméras de la rue piétonne. Là, wallah, c'est uniquement par amour et par crainte d'Allah. Ben, cet homme-là, il n'a pas fait une bonne action, parce que quand on voit les gens qui sont sur l'ombre du trône d'Allah, il y a celui qui donne le chemin d'Allah, il y a celui qui fait une bonne action dans le silence ou dans l'obscurité de la nuit. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui produisent. Le roi qui est juste, il produit de la justice, de l'équité. Le jeune qui reste de l'adoration d'Allah, il produit du ibadah. Lui n'a rien produit. Il s'est abstenu. Il s'est éloigné d'un haram. Et il obtient le même rang que celui qui a donné, qui a produit du ibadah. Et en commentaire, c'est magnifique, les savants expliquent que Allah l'a éprouvé et Allah savait qu'il n'allait pas sombrer de ce péché. Mais Allah l'a éprouvé jusqu'au bout. Et jusqu'à la fin, ou à n'importe quel moment, s'il claquait du doigt, il avait cette personne. Il l'aurait aimé parce qu'en étant un insan, un être humain normalement constitué, on ne peut pas ne pas désirer ce qui nous est proposé. Pour ça, c'est un fitna. Si elle n'était pas belle, ça n'aurait pas été un fitna. D'accord ? Elle est belle. Donc, le fitna, il est autour de toi. Et la personne arrive à dire non. Et ce refus du haram propulse cette personne sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour de Qiyam. Donc ça fait partie de la bonté, de la bienveillance, de l'outf de notre Seigneur qui crée une situation d'épreuve, de fitna, et il sait que ce abd a un degré spirituel qui lui permettra de ne pas tomber. Mais Allah Rabbul Izzat, d'une certaine façon, t'éprouve jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, tu restes ferme. Tu es resté ferme, Allah t'accorde ce rang. Mais on ne doit pas demander à Allah Azza wa Jal de nous faire vivre cette situation. Aucunement. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver sur toi comme ça. Si ça ne t'est jamais arrivé, c'est que peut-être qu'on n'a pas le coffre spirituel. On n'est peut-être pas capable. C'est ça que le prophète a dit aux sahaba, pour qu'ils transmettent aux autres générations, lorsque vous entendrez parler de Dajjal, vous vous rappelez de ça? Ça remonte, hein. N'allez surtout pas le voir. Parce qu'une personne pense être dans le droit chemin, avoir une foi, mashallah, consistante, solide. Et lorsqu'il voit les fitnas de Dajjal, la personne sombre, la tête première, il fait le kufr billah, le shirk billah, et il devient kafir billah. Nas'alullah salamat al-afiyah. C'est-à-dire que ne cherche pas les fitnas. Non. Ne cherche pas à voir les péchés pour pouvoir dire non. Ça, c'est l'organisation d'Allah. Ne rentre pas de ce mécanisme. Ce sont des choses qui nous échappent. La complexité du taqdir. La complexité du taqdir, il y a des choses qui arrivent à Hudhaifa qui n'arrivent pas à Nabil. Il y a des choses qui arrivent à Nabil qui ne doivent pas arriver à Hudhaifa, parce que chacun réagira d'une façon différente. Et Allah prédestine ce qui est adapté pour chaque créature. Ça te permet de réaliser également une des qualités d'Allah qu'on verra, Al-Alim. Allah qui connaît tout. Allah connaît chaque créature, le fonctionnement, le potentiel, ton niveau de batterie à l'instant T. Même s'il y a 8 milliards d'êtres humains, Allah les connaît parfaitement. Ne devons-nous pas nous prosterner devant ce Seigneur qui connaît tout? Est-ce qu'il n'est pas à notre avantage de l'implorer, de lui demander khair ad-dunya wa l'akhirah? Quand on voit qu'il y a tellement de choses qui nous échappent, demandons à Allah al-huda, wa al-tuqa, wa al-afaf, wa al-ghina. Parce que si Allah nous l'a accordé, Allah nous aura accordé ce qu'il y a de mieux pour un être humain. Donc ça fait partie de la bonté, de l'affection d'Allah, de la façon qu'Allah agit avec bonté envers ses serviteurs. Hada. Point suivant. Wa min lutfihi anna al-'abda idha istaghna bima ahallahu Allah lahu 'amma harrama وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية كان له حسنات. Là, on touche à des points complexes. On s'y accroche, on comprend, inshallah. Lorsque quelque chose est haram, ben dans la clémence, de la sagesse, de la bonté d'Allah, le fait qu'il t'ait donné ce qu'on appelle en arabe al-badal, ce qui peut remplacer ce haram dans les limites du halal. Et lorsque tu vas aller vers ce qui t'est licite, ben Allah t'accorde des récompenses. Ça, c'est également une manifestation de la bonté d'Allah. Et un exemple qui peut nous interpeller, quand le prophète alayhi salatu wa salam parle de la sadaqa aux sahaba, Abdul Rahman a tout de suite compris de quoi on parle. Une sadaqa qui n'est pas très désagréable et qui, comme diraient certains, ne mange pas de pain. Boisam parle d'une sadaqa lorsqu'un homme se rapproche de son épouse dans l'intimité. Sahaba ne comprend pas du prophète d'Allah. Un homme qui assouvit ses besoins, ses pulsions, comment est-ce que ça peut être une aumône? Voyez l'intelligence des sahaba. C'est pas les moutons. Non, il y a quelque chose, on essaie de comprendre. La religion, ça se pratique de façon intelligente. Si tu pratiques comme un troupeau de moutons qui suit, tu vas le faire. Mais est-ce que tu es convaincu? Ou alors tu fais parce qu'il faut faire, parce que Nana Dada l'a fait, parce que Moulissa Abla parlait de Madresa. Comprends ta religion. Comprends ce que tu fais et tu donneras un sens. C'est ce qu'on appelle un croyant éclairé. Le croyant éclairé, attention, je ne vais pas dire celui qui pose des questions, mais pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi l'homme il a le droit à ça, la femme non, moi je ne comprends pas. On ne t'a pas demandé de philosopher non plus. Parce que le tachri', ça vient d'Allah. Mais comprends la sagesse de chaque et le sens de chaque action, ça renforcera ton yaqin. Donc le sahaba pose la question au prophète d'Allah, le prophète dit que si cet homme-là, et ça va dans les deux sens. Si cet homme, cette personne, ben, il avait assouvi ses besoins dans le haram, akana alayhi fiha wizrun, est-ce que cela n'aurait pas été un péché? Fakadhalika idha wada'aha fil halal, kana lahu ajra, rawahu muslim. Il dit que, ben, comme il l'a, cette pulsion était en lui, mais il l'a contrôlé, il l'a canalisé pour l'exprimer dans ce qu'Allah lui a accordé, ben, c'est une sadaqa, c'est une bonne action. Ça nous montre comment est-ce qu'Allah est pas clément, Allah est bon. Allah Rabbul Izza agit avec amour envers ses serviteurs. C'est pas uniquement ce Seigneur, na'oudou billah, qu'Allah nous protège de ce genre de sou'oudhan, de ce genre de pensée. C'est pas un Seigneur qui veille lorsqu'on déborde un petit peu de le haram. Immédiatement, il y a le iqab. Immédiatement, il y a le azab qui tombe. Notre Seigneur n'agit pas de cette façon avec nous. Au contraire, notre Rabb demande aux anges, lorsque le serviteur se trompe, lorsque le serviteur accomplit un péché, d'attendre. De ne pas écrire le péché. Peut-être que ce abd reviendra vers Allah et demandera pardon. Et Allah Rabbul Izza laisse un délai. Certains savants parlent de 5-6 heures jusqu'à ce que ce serviteur réalise son péché. Et peut-être qu'il dit, oh Allah, j'ai fait une grosse erreur. Ya Rab, pardon, Tauba. Et Allah demande aux anges d'oublier complètement le péché qui a été accompli. Alors que lorsqu'il s'agit de la bonne action, tu as l'intention. Par exemple, Suleyman, il fait le niya, il regarde Subhul Sadiq, c'est quelle heure, il dit demain, Inch'Allah, 3h30, fini. Je me mets debout et je fais 2 raka'at de Qiyamul Layl. Même s'il ne le fait pas, c'est-à-dire le niya est fait. S'il n'arrive pas à le faire, mais à partir du moment où il a dit demain je vais le faire, Inch'Allah, il a déjà sa récompense de tahajjud. Lotf, bonté, l'amour d'Allah Rabbul Izza pour ses serviteurs. Vous savez, si on intègre ces points-là, subhanallah, notre relation avec Allah Rabbul Izza sera une relation basée sur l'amour du Créateur. Et des points qu'on avait un peu développés dans le Rahman Rahim, ça nous permettra d'aimer encore plus Allah Azza wa Jal. Parce que parmi, vous savez, les shurut de shahadat à la ilaha illallah, parmi les conditions de la ilaha illallah, pour que la ilaha illallah existe vraiment dans ton cœur, c'est aimer Allah. Si un musulman n'aime pas Allah, est-ce qu'il est musulman? C'est-à-dire que maintenant qu'on dit aimer Allah, c'est éprouver de l'amour. C'est pas aimer, ça, c'est le contraire de détester. Non, 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 on ne parle pas de ça. C'est que dans ton cœur, ça brûle d'amour pour ton Seigneur. Et la plus grande preuve, le summum, on pourrait dire le paroxysme de cet amour, c'est lorsque tu es prêt à le rencontrer, tu es pressé de le rencontrer. Ça montre vraiment que l'amour d'Allah est rentré dans ton cœur. Que même si le dunya s'arrête, tu es pressé de retourner vers ton Seigneur. Tu sais que ton parcours, c'était un parcours qui avait pour but uniquement de rechercher le contentement d'Allah. Là, on parle vraiment des hautes qualités de foi qu'Allah Azza wa Jalla nous permet de les concrétiser, de les avoir. Ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. C'est vraiment tawfiq min Allah. Je ne peux pas vous dire que voilà un barnamage. Quelqu'un m'a posé la question, parfois on parle d'un idéal spirituel, quelles sont les actions à faire? Je dis que moi, je ne suis pas un médecin spirituel pour te faire une ordonnance. Certes, il y a des a'mal. Jeûne le lundi, le jeudi, donne une salaka tous les jours, fais la prière de la nuit, fais le shurur, lis la ilaha illallah wahda la sharika lah, quatrième calément, après chaque salat, 100 fois, tout ça, lis au moins 100 fois durud sharif, salatu ala nabi, au moins 100 fois la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tout ça, ce sont des actions qui vont nous rapprocher d'Allah, qui vont nous donner la piété. Mais après, c'est une question de tawfiq min Allah. Allah choisit qui il veut. Allahu yastafi. Comme Allah choisit des prophètes, comme Allah choisit des sahaba pour être avec Jésus, Isa, avec Moïse, Moussa alayhi salam, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah choisit des personnes pour être ensuite avec les sahaba. Allah choisit ses serviteurs. Demandons à Allah de nous choisir. D'où les du'a masnoun. Et ce du'a, Allahumma inni as'aluka al-huda, aziyada, plus, encore plus de guider. Donc ça doit faire partie de le du'a essentiel. Oh Allah, accepte-moi. Oh Allah, permets-moi d'atteindre un haut degré de foi. Ya Allah, que jour après jour, je me rapproche de toi. Ya Allah, que cette salat que j'accomplis, donne-moi tawfiq de le faire jusqu'à la mort. De ne jamais rater une salat, mais que cette salat me rapproche vraiment, réellement de toi. Qu'à chaque fois que j'entends les imams lire, ou que moi-même je lis, ya Rab, que ce verset me rapproche de toi, que ça augmente ma dévotion, mon khushu, et ainsi de suite. Ce sont des doigts qu'on doit demander. Autant on doit se faire du souci fikar, comme on dit, pour la foi, on doit demander à Allah, ziyadatul iman, ihdina siratal mustaqim, Allahumma inna nas'aluka al-huda. Tout ça, ça doit être notre souci principal. Ça montre que on ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à la foi, qu'Allah nous accepte. Hada. Troisième point, on va s'arrêter à là, Inch'Allah. Wa min lutfihi, et là c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire, concernant l'exposition au péché. C'est volontairement, on cite les uns après les autres des points contradictoires pour qu'on réalise que, en fonction des serviteurs, en fonction de ces créatures, Allah agit d'une certaine façon. Dernier point pour ce soir, on va dire وَمِنْ لُطْفِهِ أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ عَبْدِهِ أَسْبَابَ الْفِتَنِ. C'est le contraire. Parmi les manifestations de la bonté d'Allah envers nous, que pour certaines de ces créatures, il éloigne complètement tous les fitnas. Tout ce qui pourrait faire chuter ce serviteur. C'est-à-dire que là, Allah Azza wa Jal agit d'une autre façon. Pour lui, pour Fulan, pour Rachid par exemple, Allah Azza wa Jal l'expose à une extrême épreuve spirituelle, et Allah il sait qu'il ne va pas chuter, et quand il répond comme Allah attend de lui, il grimpe, il atteint un niveau exceptionnel. Et pour d'autres, Allah va éloigner tout ce qui est mauvais de toi. D'où la fin du dua, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-t-tuqa wa-l-afaf. Protège-nous des péchés, que jamais le péché passe devant nos yeux, que jamais nous ne soyons tentés par le péché. Ça, c'est le niveau basique de foi. L'autre, c'est haut degré. Ça, c'est le niveau basique qui est là, le cran de sécurité spirituelle, on pourrait dire, d'accord? Et donc, umur, il y a des fois où l'homme veut certaines choses, l'homme aimerait certaines choses, mais Allah éloigne ces situations parce qu'il y a un bien pour lui. Qui me cite le verset? Celui qui le trouve, on clôture ce soir, Inch'Allah. Tu cherches, Allah te donne pas. Tu veux pas, Allah te donne. Hudhaifa, Sulaiman, Ali Huffaz, Asa, wa Asa, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il y a des fois où on ne veut pas, mais Allah il te donne. Wa Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Des fois où tu veux quelque chose et Allah sait que c'est mauvais pour toi. Tu aimerais voyager, aller dans tel pays. Aller en voyage à un endroit où tu aimerais signer un contrat dans telle société ou ainsi de suite. Et tu fais tous les efforts. Tu rassembles les moyens. Tu te fais pistonner. Apparemment, c'est ce qui marche le jour de l'an. Tu as des CV longs comme des parchemins. D'accord? Tu as tout. Tu as les compétences. Le job passe sous ton nez, ça va pour quelqu'un d'autre. Et tu as fait doigt, j'ai oublié. Tu as fait doigt, tu as fait tahajjud, tu as fait qiyam al-layl. Parfois, ton monde dit ça, fais doigt pour moi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, khair. Et tu obtiens pas de télé. Pas vrai. Soit le molissable est faille, soit... Non, ton molissable n'est pas faille. Ton doua était bon, mais Allah, Azza wa Jal, dans sa connaissance, dans sa sagesse et dans sa bonté, il sait pertinemment que c'est mauvais pour toi. Que peut-être en signant un contrat de cette société, tu serais exposé à des péchés, à des situations. Il y a des fois, quelqu'un demande une mutation, mais la mutation n'est pas acceptée, il n'est pas content. Mais peut-être qu'en allant sur un autre plateau, il y aurait des tentations. Qui te dit, tu rencontres une créature de rêve et que le rêve se transforme en cauchemar? Ça brise ta vie familiale. Vous savez, hein, l'homme est faible, d'accord? Et il suffit d'un coup de foudre pour le foudroyer. Ce coup de foudre, il te fait voir plein de choses, d'accord? Il te procure du bonheur, mais ensuite ça foudroie tout ce que tu as construit. Le cœur balance pour une personne, ça brise ta vie de couple, ça brise ta vie familiale, ça détruit relations parents-enfants, belle famille et tout. C'est zilla, une humiliation pour la personne. Et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand on dit qu'Allah Azza wa Jal, on verra par la suite, qu'Allah il connaît tout, Allah il connaît le passé, le présent, le futur, et même le futur conditionnel. Mais en arabe, il y a une façon de le dire, ça ne me revient pas, ce qui n'a pas été décrété, ce qui n'a pas décrété, c'est cette chose s'était produite, comment cette chose aurait été. Le futur conditionnel qui ne se produit pas, on va dire le futur inconditionnel, des choses qui nous dépassent. Par exemple, tu as 10 cas de figure A, B, C, D jusqu'à IJKL, tu as choisi A, mais Allah Azza wa Jal sait si tu avais pris B, quelles auraient été les conséquences, si tu avais pris C, et tout ça c'est de l'ilm d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a des fois Allah guide tes pas, et le point de chute c'est un point que tu ne voulais pas, tu voulais totalement le contraire, et ça c'est la bonté d'Allah. Et après coup, ça peut être parfois des années après, la personne réalise que Allahu Akbar, comme dit Allah l'a bâti avant moi. Une expression, Allah m'a protégé. Oui, souvent on entend dire, Allah t'a protégé de telle chose. Hein. Imagine, hein, là où ça aurait été ainsi. C'est ça, souvent ça arrive d'aller demander un mariage. Une fille qui, parfois un garçon aussi têtu, va absolument être telle, d'accord? Et puis, ça ne se concrétise pas. Et puis par la suite, quand tu vois le dénouement, cette personne qui s'est mariée avec d'autres personnes, et on voit comment ça se passe, tu dis que waouh, du coup la personne c'était déchaîné comme ça. Après 2 ou 3 mois de mariage, on a vu son vrai visage, caractère, le mari, caractère violent, quelqu'un de ainsi de suite, il frappe sa femme. T'es, ben, Allah a protégé ma fille. Je voulais absolument donner ma fille à ce jeune homme-là parce qu'il gagnait 5000 euros par mois, parce qu'il portait tel nom. Et regarde, quand il s'est marié, ben, regarde ce qui se passe. Il y a plein de situations où on se rend compte que Allah t'a protégé, Allah était clément, Allah fait preuve de bonté. Donc ça, c'est dans ce qu'Allah éloigne de toi. Et là, on revient vers le texte précis. Là, on parle de fitna, pas de situation de la vie. Allah te protège des fitna. Et pour conclure, en fait, la vraie conclusion, ce sera la prochaine fois. Ça, ça nous permet de voir que, de la façon, on a dit, d'agir d'Allah Azza wa Jal, il peut y avoir des situations opposées. Avec chaque personne, Allah Azza wa Jal agit d'une certaine façon. Maintenant, décrypter comment Allah agit avec toi, ben, cela nécessite une connaissance de la façon qu'Allah procède et de cette qualité qui est la bonté d'Allah Azza wa Jal, pour que tu ne portes pas un jugement et surtout ne portes pas na'oudou billah un jugement sur la décision d'Allah en te comparant avec ton voisin. Ne te compare pas avec un autre. Chaque personne est un cas différent. Lui, il a réussi, c'est pas que Allah l'a favorisé, Allah m'a défavorisé. Son cas est différent et ton cas est différent. Permettez-moi de conclure pour la 5e fois avec ce hadith qui porte vraiment réflexion. C'est un hadith qui est ce genre de hadith punchline, dans lequel le prophète Sassam a dit, pour certaines personnes, Allah a décrété la pauvreté. Et que rien ne sera mieux pour cette personne que la pauvreté. Et pour d'autres personnes, Allah a décrété la richesse. Et pour lui, rien n'est plus adapté que la richesse. En commentaire très rapidement, notamment disent, on citera le cas le plus choquant, décréter la pauvreté. Parce qu'Allah, dans sa clémence, dans son ilm, dans sa sagesse, il sait pertinemment que si ce serviteur était riche, aisé comme son voisin, cette richesse aurait été un fitna pour lui. Il ne serait pas venu une seule fois à la masjid, il serait dans le péché, dans son commerce, dans le business du matin au soir. Alors que là, il vit du SMIC, les fins du mois sont difficiles, mais il est là 5 fois par jour à la salat. Tout ça, ça découle de la bonté d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous accepte, nous donne la véritable foi, véritable yaqin à nous tous, et que jour après jour, réellement, on développe les qualités intérieures qui ont fait des sahaba, les sahaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin.